Rebonjour à tous, bonjour Cyril Trimaille. Je suis très honorée de prendre aujourd'hui la parole pour vous présenter au public que nous accueillons ici. Je vais faire un petit point sur votre parcours universitaire, si vous le voulez bien. Donc, votre parcours universitaire, si j'ai bien tout lu, est marqué par des études en droit public, par de la didactique en français langue étrangère. À un moment même de votre carrière, vous devenez directeur de l'Alliance française à Chihuahua au Mexique, avant d'intégrer l'université Stendhal de Grenoble, parce que ça s'appelait comme ça il y a quelques années, pour y réaliser votre doctorat sous la direction de Jacqueline Billiez. Votre thèse s'inscrit tout particulièrement dans le thème de notre journée, puisqu'elle s'intitule « Approche sociolinguistique de la socialisation langagière d'adolescents », au pluriel. Vous êtes depuis 2004 maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, c'est désormais son nom, et vous êtes sur le point, ou presque, de soutenir votre HDR. Vous appartenez au laboratoire LIDILEM, si je le prononce correctement, ce qui veut dire Laboratoire et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles, et au CLE, ou je ne sais pas si ça se dit comme ça, Cognition, Langue au pluriel, Langage et Ergonomie de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, vos recherches utilisent à la fois des méthodologies quantitatives et qualitatives. Vous y convoquez de la sociologie, de la linguistique, de la psychologie sociale, de l'ethnologie, j'en oublie. Elles s'articulent, ces recherches, autour de trois thèmes. La catégorisation des ressources langagières. Je peux citer par exemple votre article de 2021 dans Langage et Société qui s'intitule Catégorisation. Vous avez pour thème aussi la variation, les changements dans le langage, enfin dans le français parlé. Dans ce thème, je peux citer encore un article coécrit avec Médéric Gasquet-Cyrus en 2017 qui s'intitule Être néo quelque part, la gentrification à Marseille, ses implications sociolinguistiques. Et puis un troisième thème, les pratiques langagières des adolescents, thème que l'on retrouve dans Études des parlers jeunes urbains en France, éléments pour un état des lieux, article de 2004 publié dans les cahiers de sociolinguistique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter vos recherches en cours, qui se passent du côté de Grenoble, bien sûr, dans un collège, si mes souvenirs sont bons, pour éclairer ou nous éclairer sur les pratiques des jeunes collégiens. Alors, avant de vous céder la parole, j'anticipe sur des questions éventuelles. En lisant votre article de 2004 qui s'intitule « Catégorisation », vous citez Antoine Meillet qui fait la distinction entre deux langues. Celle de la civilisation, écrite, dominante, et les dialectes, les parlers populaires. Donc est-ce que le langage des jeunes pourrait être considéré du coup comme un dialecte ? Vous écrivez plus loin dans cet article, nommer c'est catégoriser, c'est faire exister, mais c'est aussi instituer socialement, hiérarchiser et dominer. Est-ce qu'en parlant du langage des jeunes, nous jugeons, nous adultes, ce langage, nous le mettons un peu à distance pour être dans le côté dominant ? Est-ce que nous hiérarchisons ? Et puis enfin, dans votre article coécrit avec Médéric Gasquet-Cyrus, vous écrivez « La ville a un effet sur les pratiques langagières et les pratiques langagières contribuent à construire la ville ». Est-ce qu'on pourrait faire ce même lien avec, en disant « Les adultes contribuent peut-être à construire le langage des jeunes, mais en quoi leurs pratiques langagières nous permettent de nous construire, nous, adultes ?» On va vous écouter désormais sur les gros mots insultes et autres usages transgressifs au collège, le langage, objet et outil de socialisation et de construction de soi. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole.
Merci, merci beaucoup pour votre invitation à toutes les trois. Merci aussi à tous ces types qui avaient pris la parole parce que j'ai trouvé des échanges nourris et extrêmement intéressants. J'ai d'ailleurs rajouté deux petites diapos pour faire écho à certaines de vos interventions pendant la pause. Alors, Je vais donc essayer de vous présenter quelques réflexions sur les pratiques langagières adolescentes depuis mon point de vue de sociolinguiste. Je vous en dirai quelques mots. Comme le thème de la journée, c'est l'enfance, je vais me focaliser plus particulièrement sur l'entrée au collège, le passage en sixième. Je vais vous présenter des... Je vais donner la parole à un certain nombre d'enfants, d'adolescents en devenir, hein, puisque sixième, c'est 11 ans, 12 ans. Donc on est vraiment à cette transition. Et je vais essayer de m'interroger, en tout cas c'est ce que j'ai fait, je les ai interrogés sur ce que Jean-Claude Chamberedon, sociologue, appelait la scansion temporelle du système de formation, avec l'importance du passage de l'école primaire au collège. Alors, je vais faire deux petites précisions préalables. Vous remarquerez que j'ai mis gros mots et insultes d'abord entre guillemets dans le titre de ma présentation. Alors, ce sont des termes très courants. C'était un peu le contrat, ou en tout cas l'invitation, c'était de réfléchir à partir de ces catégories. Je vais l'utiliser ici pour deux raisons. D'abord parce qu'on m'a invité à y réfléchir. Ensuite parce que ce sont des termes qui sont très utilisés par les enfants et les ados. Enfin, quand on leur demande de qualifier leur façon de parler. Et puis, ce ne sont pas des catégories d'analyse que moi j'utilise. Pour différentes raisons, puisque comme beaucoup de mots, ils sont assez piégés. Qu'est-ce que c'est qu'une insulte? Il y a pas mal de spécialistes qui disent qu'il n'y a pas d'insulte sans que quelqu'un soit insulté, en fait. Une insulte, c'est une relation d'interaction. Donc on va voir que il n'y a pas toujours insulte quand il y a gros mots. J'utilise plutôt, alors ça fait un peu pompeux, mais le terme d'axiologie, donc l'axiologie, ça renvoie à un jugement bien mal, hein, axiologie négative, ce qui va envoyer à tous ces termes qui peuvent comporter des grossièretés, des jurons, des insultes, qui renvoient à la sphère du tabou, par exemple, hein, tout ce qui renvoie à la sphère du sexuel, de la mort, de la famille, de la religion, etc. Selon les civilisations, selon les cultures, selon les époques, ça bouge, les tabous changent. Donc première précision, je vais utiliser gros mots et insultes au sens commun du terme, tel qu'utilisé par les enfants et les ados. Donc j'utiliserai aussi axiologie négative ou axiologie péjorative pour, on va dire, englober tous ces termes d'un point de vue plus sociolinguistique ou analyse du discours. Ensuite, dans mon titre, j'ai utilisé l'expression construction de soi et... En fait, ça renvoie à différentes dynamiques ou processus qui concourent à la construction de l'identité plutôt personnelle. C'est-à-dire comment un sujet va se construire dans ses relations à soi-même et aux autres. Voilà. Donc c'était juste pour préciser ça. Et je renvoie notamment à plusieurs articles de Pierre Tapp, psychologue, un article de 88 et un article de 91, qui interroge beaucoup dans la construction de l'identité personnelle, la dialectique entre l'identification, c'est-à-dire s'identifier à d'autres, hein, et l'identisation, se différencier des autres pour être soi. Voilà. C'est préalable posé. Je vais passer très vite sur cette diapo, puisque Laurence, comme on m'a gentiment présenté très largement. Donc, je travaille sur l'hétérogénéité des pratiques langagières en sociolinguistique. Donc, la sociolinguistique, c'est une branche ou une partie de la linguistique qui s'intéresse plus spécifiquement à l'étude des façons de parler, des langues en contexte. Je ne vais pas vous faire le tableau exhaustif de ce que c'est. Et puis, je m'intéresse à la fois à l'hétérogénéité des pratiques, notamment celle des jeunes. Pas du tout spécifiquement les gros mots, les insultes. Et puis je m'intéresse aussi aux représentations et aux idéologies, et je me suis permis de prendre la parole tout à l'heure sur cette question-là, parce que ça me semble aussi au cœur de ce qu'on est en train d'interroger aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas au cœur, mais derrière, hein, il y a vraiment cette question de comment on perçoit nos propres façons de parler et celles des autres. Et Laurence aussi a gentiment dit que je fais en ce moment un travail d'ethnographie sociolinguistique dans un collège grenoblois, socialement mixte, dans un quartier ouvrier, un ancien faubourg qui a été intégré à la ville et qui est en phase de gentrification, mais qui résiste. Voilà, donc c'est mon terrain d'enquête actuel. Voilà, je vais passer un peu rapidement là-dessus, juste pour vous dire au niveau méthodologique, je vais vous présenter aujourd'hui des extraits. Alors, je vais largement donner la parole aux enfants et aux pré-ados, en essayant de commenter un peu et d'analyser certains de leurs points de vue. Je m'appuie donc sur des entretiens qui sont pour la plupart des entretiens collectifs, hein, qui sont menés dans le collège pendant des temps de permanence sur la base du volontariat. Donc, la question de départ que j'ai mis en fluo ici, je commence tous ces entretiens, tous ces focus group par cette question. Est-ce que votre façon de parler a changé depuis que vous êtes entré au collège? Alors, les réponses diffèrent fortement en fonction de l'âge des élèves que j'interroge. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser plus spécifiquement, comme je vous le disais, à des élèves de 6e. Et je vous signalerai, il y a quelques exceptions, j'essaierai de vous le signaler en vous disant que ces élèves-là ne sont pas de 6e. Je m'intéresse, donc j'enregistre, je transcris, et puis je recherche, notamment, en tout cas pour aujourd'hui, ce qu'on peut appeler des discours métalinguistiques ou épilinguistiques, c'est-à-dire des discours qui tout simplement portent sur la langue, le langage, l'idée qu'on s'en fait, les jugements qu'on porte dessus, voilà, les mots qu'on utilise pour le décrire. Voilà, je n'irai pas plus loin dans la définition de ça. Donc je vais essayer d'adapter un petit peu mon propos et je vais commencer par vous présenter quelques éléments théoriques qui permettront de, je dirais, construire un langage commun. Bon, je passe rapidement sur le plan. Et voilà une des diapos que j'ai rajoutées. Je voudrais commencer par une petite devinette. Qui a écrit, d'après vous, « Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent. Au lieu de travailler, ils sont tout simplement mauvais. » Alors, qui se lance une... C'est pas Anne Finkielkraut. Ça aurait pu. Bravo. C'est Socrate. 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais c'était tout à fait à propos, en fait. La peur de la jeunesse, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Et puis, une citation beaucoup plus récente, je ne vais pas vous faire deviner l'auteur, c'est encore Jean-Claude Chambordon, qui, dans cet article qui date de 70, hein, donc ce n'est pas nouveau, et là encore, ça nous renvoie à une des questions tout à l'heure, depuis quand on s'interroge sur ces questions, vous voyez. C'est dans les conflits qui naissent à propos des jeunes que l'on peut le mieux ressaisir tous les griefs portés contre les mœurs populaires. C'est dans l'aptitude à transmettre la culture que l'on voit le signe le plus indiscutable de culture, et c'est une accusation de barbarie que de dénoncer l'incapacité de donner une éducation correcte. Je pense que ce petit extrait, cette petite citation qui est très ancienne, peut largement faire écho à des discours qu'on entend aujourd'hui. Je vais passer sur cette diapo, j'y reviendrai après. C'est une des deux que j'ai rajoutées, mais je vous la montrerai si j'ai le temps à la fin. Voilà. Donc, quelques jalons pour un langage commun. D'abord, je vais passer très vite sur la langue, mais tout à l'heure, on a parlé de langue, de dialecte, de patois. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une langue en linguistique? C'est un système de signes conventionnel partagé par un groupe humain, quelle que soit sa taille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des langues qui sont parlées par quelques locuteurs. C'est des langues qui vont disparaître sans doute bientôt. On les appelle langues en danger, voire en voie de disparition. Mais il est important de se dire que entre dialecte, langue et patois, la différence, ça peut être le nombre de locuteurs, ça peut être le fait que cette langue est écrite ou non, mais une langue, un dialecte ou un patois, c'est avant tout un système linguistique. Voilà. Donc là-dessus, on frappe. En linguistique, on ne fait pas de différence, même si socialement, idéologiquement, on va faire des différences. Une langue, elle a une fonction référentielle, c'est-à-dire qu'elle permet de signifier, elle permet de faire du sens, de désigner des choses, d'inventer des concepts, etc. Toute langue a ensuite une fonction communicative, bien sûr, c'est celle qui nous vient immédiatement à l'esprit, mais aussi une fonction praxéologique, une fonction d'action. En fait, une langue, et l'usage qu'on en fait, ça sert aussi à agir sur le monde. Et puis, je vous avais peut-être déjà entendu parler d'énoncé performatif. Si je dis à quelqu'un « je te promets », eh bien, en disant ça, je réalise l'acte de promettre. D'accord ? Donc, en fait, vous voyez qu'ici, le langage, il a une vraie... Enfin, la langue et l'utilisation de la langue, dans certaines conditions, peut changer le réel. Je vous prends un autre exemple d'énoncé performatif, c'est lorsque le maire ou la mairesse vous déclare uni par les liens du mariage. Avant, vous n'étiez pas marié, après, vous l'êtes, ça change votre état civil. D'accord ? Ça change votre identité. Troisième fonction, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les principales, c'est la fonction identitaire. Dans la mesure où parler une langue ou déclarer que l'on parle une langue, eh bien, c'est s'affilier à un groupe, c'est déclarer son appartenance, déclarer son allégeance. Mais c'est aussi, et là je vais prendre l'exemple très actuel de la future loi sur la régulation de l'immigration, c'est aussi imposer le français comme la seule langue de la République, et notamment, on parlait tout à l'heure de migration, d'élèves allophones, etc., pour certains migrants. C'est subordonner leur accueil, la possibilité de leur accueil, à une certaine maîtrise du français. Ce qui est un peu, parfois, mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Voilà. Voilà. Vous avez vu sans doute, alors, je parle de pratique langagière des jeunes et pas de langue des jeunes ou de parler jeunes. Ça fait 20 ans que je me bagarre contre ces expressions. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que pratique langagière, c'est une conception fondamentalement sociolinguistique et très intéressante, parce que ça, donc c'est notamment Josiane Boutet qui a forgé cette notion. En fait, elle met en scène différentes caractéristiques, et d'abord la notion de rapport de force, en fait, à différents niveaux. Ces rapports de force, ils peuvent exister à différents niveaux sociaux. Par exemple, à un niveau macro-social, les pratiques langagières sont marquées par les rapports sociopolitiques. Il existe des hiérarchies sociales, des hiérarchies professionnelles, des niveaux d'études, etc. Et donc, les pratiques langagières prennent en compte le fait que tout échange linguistique prend place dans un système de valeurs, de positions, voilà. Et notamment de positions différentes par rapport à la détention de ressources matérielles ou symboliques, ne serait-ce que ça. Donc marché, ça renvoie, peut-être vous avez déjà entendu parler de marché linguistique, hein, c'est une notion de Pierre Bourdieu, qui renvoie au fait que les différents biens linguistiques que l'on met en circulation, notamment dans les interactions, n'ont pas tous la même valeur et qu'ils obéissent à alors c'est une métaphore économique, à une loi de fixation des prix sur le marché. En gros, plus un bien va être rare, plus il va avoir de valeur, dans cette métaphore économique. Et là, on voit qu'au niveau micro-social, dans un échange, j'emprunte cette métaphore à Pierre Bourdieu, en fait, dans une interaction, on va retrouver en miniature la structure sociale de la société. C'est-à-dire qu'on va retrouver des positionnements différents, des ressources matérielles et symboliques différentes, et tout ça va recréer dans une interaction, par exemple, entre deux personnes, on peut penser à un enseignant et un élève, par exemple, hein, ou un juge et un accusé, on va retrouver cette structure sociale. Donc, ici, la notion pratique langagière, elle permet de contenir tout ça. Et puis, le deuxième avantage, c'est l'idée que les pratiques langagières, elles sont à la fois déterminées par la structure sociale, mais aussi déterminantes, c'est-à-dire qu'elles sont potentiellement agissantes. Voilà. Dernier point, j'ai utilisé les constructions de soi, mais je vous ai déjà un peu parlé de ça. Les pratiques langagières, les langues, les ressources que l'on possède nous permettent de nous situer, de nous construire et de nous situer par rapport aux autres. On parlait tout à l'heure de normes. Alors, on a la langue étant un système conventionnel, hein, puisque s'il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas de règles, on ne se comprendrait pas. Une langue est structurée par des règles, et on a l'habitude de parler de normes au singulier. Vous voyez ici que j'ai mis un grand S pluriel à normes. En fait, à la suite d'Alain Rey, qu'on a vu tout à l'heure dans une des vidéos que vous avez montrées, pour aller un peu vite, on peut distinguer au moins trois types de normes. D'abord, la plus connue, la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle la norme prescriptive. En gros, c'est La différence, c'est le, je mets des guillemets à ça, je l'ai fait bien, bien non-verbalement. En fait, l'allant prescriptif, c'est ce qui correspond à ce qui devrait être. C'est-à-dire à ce qu'on recommande, à ce que la langue officielle, la langue légitime, exigerait de faire la façon dont on exigerait de parler. Par exemple, à un examen, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, par exemple, dans un grand média national. Ça, c'est ce qu'on va appeler la norme prescriptive. Deuxième type de norme, et c'est celle qui nous intéresse en tant que linguiste ou sociolinguiste, c'est ce qui est. C'est-à-dire, lorsqu'on enregistre les gens qui parlent, eh bien, le français, on se rend compte qu'il est extrêmement diversifié et que selon les groupes sociaux dans lesquels on va aller enquêter, eh bien, les normes qu'on va observer ne seront pas les mêmes. D'où l'importance de mettre cette notion de norme objective au pluriel, en gros. Si vous allez traîner dans les couloirs de France Culture ou de RMC ou d'un collège de banlieue, les normes en vigueur ne sont pas les mêmes. Et ça, ce sont des normes objectives au sens où si on fait des statistiques, on va montrer quel est l'usage dominant dans un groupe social donné à un moment donné, parce que ça change aussi dans le temps. Troisième type de normes, ce sont les normes subjectives. Et les normes subjectives, c'est un peu la manière dont tout un chacun, dont chaque locuteur et locutrice, va se saisir de ce qu'il a appris des normes prescriptives, notamment à l'école, et quelle représentation il va développer ça, quel usage il va en faire. Et je vais vous prendre un exemple que tout le monde pourra saisir facilement. Si on prend la négation en français, eh bien, la négation en français, la norme prescriptive nous dit double négation, je ne suis pas. Et ça fonctionne très bien à l'écrit, ça fonctionne très bien si vous prenez des écrits, on va dire, formels, type journaux, type écrits publics, il y a toujours des doubles négations, presque dans 100% des cas. En revanche, si vous enregistrez des gens parler, y compris des gens, on va dire, dans des échanges formels, d'un haut niveau culturel, si vous les enregistrez à l'oral, vous trouverez plus souvent l'absence de la première particule de négation ne pour n'avoir que je suis pas ou je pense pas que. Et là, on parle de la norme objective de l'oral qui est simple négation. Et puis, troisième illustration, eh bien, c'est une blague de linguiste, mais en fait, on a relevé souvent des discours enseignants, par exemple, qui disent à des élèves, on dit pas, je dis pas. C'est-à-dire que, en même temps qu'ils omettent la négation, enfin, ils omettent la négation pour dire qu'il ne faut pas l'omettre. Donc ça, c'est une bonne illustration de la norme subjective, où d'un côté, on a une représentation de « il faut appliquer la norme prescriptive », mais en réalité, dans l'usage, on ne le fait pas. Voilà. Je vais vous montrer une transcription d'un échange qui a lieu à la cantine du collège dont je vous parlais tout à l'heure. Un exemple de négociation de ces normes. Ici, vous voyez, donc je suis à table avec 4 ou 5 élèves de 5e à ce moment-là. Alors regardez, c'est un tout petit extrait d'un enregistrement qui dure plus d'une heure, mais dans ce petit bout d'interaction, on va voir qu'il se passe plein de choses. Vous voyez Mimi, donc en 151, qui dit « Qui veut de l'eau ?»« Cyril, vous voulez de l'eau ?» Donc elle s'adresse à moi en m'appelant par mon prénom et en vous voyant. Eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis « Ouais, s'il te plaît », donc je la tutoie et je lui propose de passer au tutoiement. Donc vous voyez qu'ici, il y a une forme de négociation de quelle norme on applique. D'accord? Je suis là en tant qu'enquêteur, c'est une des premières rencontres qu'on a. J'essaie d'instaurer une certaine proximité qui va permettre justement de mener une enquête qui ne soit pas trop biaisée, on va dire. Donc je lui dis « On peut se tutoyer si tu veux ». Voilà. Et puis on parle à ce moment-là de ce qui a changé au collège. Et les filles me parlent pas tant du langage pour l'instant, mais plutôt du style vestimentaire, de la coiffure, etc. Et puis je leur demande, mais du coup, c'est quoi les influences? Ça vient d'où l'idée de changer comme ça? Et là, Luce répond, c'est pour casser les couilles à ma daronne. Donc encore une fois, c'est la première fois ou la deuxième fois que je rencontre cette élève. Et bon, y a du bruit, tout ça. Je lui dis, j'ai pas compris. Donc elle répète, c'est pour casser les couilles à la daronne. Et Du coup, moi, je valide entre guillemets l'énoncé en disant c'est bon, je l'ai reçu, je le répète moi-même. Et là, vous voyez Mimi qui dit parle bien, wesh, on est enregistré. Donc, ici, vous voyez à nouveau une conception normative hein, de cette jeune fille, de cette adolescente. Et Luce lui répond mais en fait, c'est pas grave, on doit parler comme d'habitude. Et ici, en fait, elle rappelle ce que moi j'ai dit, ce que j'ai instauré comme norme, c'est-à-dire que, en fait, j'enquête sur le langage, mais l'idée c'est que, parlez comme d'habitude, faites pas, sortez pas, mettez pas les petits plats dans les grands, si je puis dire. Et en fait, elle s'appuie là-dessus. Donc vous voyez qu'ici, il y a une vraie négociation normative que je trouve intéressante. Et on a ici ce que j'appellerais l'énoncé de Mimi là, avec cette injonction, hein, parle bien, wesh, on est enregistré, donc vous voyez aussi le télescopage entre l'injonction de bien parler et l'insertion de wesh ici dans l'énoncé. Ce qui me fait dire, pour Mimi, qui produit cet énoncé, wesh, ça passe très bien. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, d'une part, elle s'adresse à sa copine quand même, elle ne s'adresse pas à moi, mais vous voyez l'ambiguïté qu'il peut y avoir là-dedans. Typiquement, c'est ce qu'on appelle un énoncé méta ou épilinguistique, hein, qui porte sur le langage, la qualité du langage, la norme à appliquer. Et pour moi, et pour Norma Coggins, avec qui j'ai travaillé aussi sur cet échange, qui a soutenu son Master 2 il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on appelle un énoncé socialisateur. C'est-à-dire, j'arrive tout de suite à la socialisation langagière, mais il y a là derrière une idée de ce que devrait être la façon de parler à ce moment-là. Donc voilà pour les normes. Je vais passer très vite là-dessus, juste dire que nos façons de parler, nos ressources langagières plus exactement, elles sont organisées dans ce qu'on appelle un répertoire verbal. C'est un terme forgé par Gumpert il y a aussi très longtemps. Ce répertoire verbal, il comprend l'ensemble de nos ressources langagières, que ces ressources soient dans une langue, deux langues ou 10 langues, qu'on parle un petit peu ou complètement ces langues, peu importe, en fait, tout ce qui nous permet de communiquer avec autrui, langagièrement, y compris le non-verbal, eh bien, tout ça, ça fait partie de ce répertoire verbal. Et puis, l'autre concept qui me semble essentiel et qui permet, en tant qu'éducateur, c'est la notion de qui permet de saisir justement les mouvements, les déplacements, les adaptations, notamment des élèves, c'est la notion de compétence de communication. En fait, ce répertoire verbal, c'est comme si c'était notre réservoir de formes, notre réservoir de ressources langagières pour échanger avec autrui. Mais si j'étais arrivé ici en vous disant, je ne sais pas, par exemple, « Salut mes cocos, comment ça roule ?» En fait, j'aurais commis une forme d'impair communicatif, non pas que je ne maîtrise pas la grammaire du français, mais simplement que j'aurais pas su quoi utiliser à quel moment. Et cette notion de compétence de communication, elle est essentielle pour ça. Vous voyez, je vous cite cette petite citation de Dale Hines qui dit en fait que l'enfant acquiert une compétence qui lui indique quand parler, quand ne pas parler, et aussi de quoi parler avec qui, à quel moment et de quelle manière. Bref, un enfant devient à même de réaliser un répertoire d'actes de parole, de prendre part à des événements de parole et d'évaluer la façon dont d'autres accomplissent ces actions. En gros, cette compétence de communication, j'aime bien l'image de Catherine Cabrat-Oricioni qui dit que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Noam Chomsky, sans doute opposant, comme militant, mais Noam Chomsky, à la base, c'est un linguiste très célèbre, un linguiste très, très, très formaliste. Et c'est lui qui a distingué compétence et performance dans les années 50, c'est très ancien. Et en fait, cette notion de compétence communicative, elle vient s'opposer, elle vient déconstruire notamment la notion de compétence linguistique. Et Catherine Cabrat-Oricioni dit en gros, le bébé chomskien, je vous fais la citation de mémoire, le bébé chomskien qui maîtriserait parfaitement la grammaire d'une langue mais serait incapable de savoir à quel moment utiliser quelle unité de la langue serait une sorte de monstre social. C'est-à-dire un monstre social maîtrisant parfaitement la grammaire, la phonologie d'une langue mais absolument incapable de savoir quel mot utiliser avec qui, par exemple. Et en fait, cette compétence de communication, elle se construit notamment dans ce que des anthropologues linguistes appellent la socialisation langagière. Alors, quelques mots là-dessus. Bon, la socialisation, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, donc je ne vais pas m'étendre, mais en gros, c'est comment une société forge des individus pour être adaptés en son sein, en quelque sorte. Hein. En gros, c'est comment un être biologique devient un être social adapté. Eh bien, la socialisation langagière va s'appuyer sur cette notion de socialisation, bien sûr, mais l'aborder de deux manières. En fait, le langage est d'abord un outil de socialisation. Par exemple, donc, cette notion d'anthropologie linguistique, elle est intéressante parce qu'elle nous dit que la socialisation générale, le fait de devenir un membre compétent d'une société, d'un groupe social, d'un groupe socioculturel, cette compétence, elle se construit par le langage. Par exemple, il faut, quand les parents disent à l'enfant « bouge ton nez, mets pas ton doigt dans ton nez », en fait, le langage n'est pas l'objet de la socialisation, mais ici, l'outil ou l'instrument de la socialisation. D'accord ? Donc ça, c'est la socialisation par le langage, et c'est le premier aspect de cette notion de socialisation langagière. Et puis, le deuxième aspect qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est la socialisation à l'usage du langage. Donc, ici, ça va être des énoncés du type on vous voit un adulte qu'on ne connaît pas. Cette socialisation, bien sûr, elle commence quasiment dès la naissance, puisque la socialisation, on sait que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même ce que les parents font plutôt que ce que les parents disent. Hein, c'est pour prendre l'exemple des parents, ce ne sont pas les seuls socialisateurs. Mais... Et donc, en fait, un enfant, dès son plus jeune âge, va observer, reproduire certains des comportements langagiers. Donc la socialisation, elle est à la fois explicite, l'école, tout ce qui est éducation, tout ce qui est cours de français, tout ce qui est, c'est des formes de socialisation langagière. Mais elle est aussi très implicite. Oui. Je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Et alors, de façon schématique, si on applique cette notion de socialisation et de socialisation langagière à l'adolescence, eh bien, devenir adolescent, c'est s'identifier à ses pairs, voilà. Au point de vue des représentations, des normes, des valeurs et des comportements. Donc ça veut dire que, vous l'avez dit à plusieurs reprises tout à l'heure, hein, c'est il faut s'intégrer, il faut appartenir, et donc il faut s'identifier. Et pour s'identifier, il faut recevoir une forme d'approbation sociale aussi. Il y a une interaction ici. Et ça veut dire qu'il va falloir établir une relation horizontale, pouvoir établir une relation horizontale avec des pairs, passer par des moments de mimétisme ou d'imitation. Alors ça peut être le style, encore une fois le style vestimentaire, le style langagier, c'est ce qui va nous intéresser. Et puis d'autres éléments, parfois ça peut être des conduites transgressives, des conduites à risque, etc. Devenir adolescent, c'est aussi, et je dirais surtout, se différencier des plus petits. Et en fait, se différencier des plus petits, ça commence très très tôt. Pour ceux qui ont des enfants, vous aurez remarqué que quand on passe de l'école maternelle à l'école primaire, bien, on ne dit plus ma maman, mais ma mère, par exemple. Et ça, c'est une manière de se différencier déjà des plus petits, dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Et puis, aujourd'hui, il y a plein d'autres moyens de le faire. Mais en tout cas, c'est un des pôles de la socialisation adolescente qui est au moins aussi important que se distinguer des adultes. Hein. Troisième point, en fait, la socialisation adolescente, et notamment la socialisation langagière, elle permet d'aller tester les limites, subvertir les relations hiérarchiques, les transgresser, et puis, d'une certaine manière, contester la domination des adultes. Deux citations ici de Colin qui, dans un ouvrage, s'appelle « La socialisation adolescente », sur le rapport entre construction personnelle, de l'identité personnelle, et appartenance, identification. Les jeunes, vous voyez, se fondent dans le groupe pour épanouir leur personnalité et construire une image de soi à travers une personnalité collective requérant l'égalité de tous et la systématisation des comportements et des attitudes. On a ici cette dialectique entre identification, appartenance, disparition dans le groupe, en quelque sorte. Et puis, en fait, le paradoxe, c'est que ce groupe qu'on va imiter, dans lequel on va se fondre, en quelque sorte, il fournit à l'adolescent ou à l'adolescent en cours de construction une espèce de havre qui lui permet justement de prendre ses risques et d'avancer, de se détacher de la famille, des parents, etc. Et puis, pour revenir aux âges qui nous intéressent, vous voyez que la conformité au groupe est maximale entre 12 et 15 ans. Ça veut dire que les phénomènes d'imitation vont être hyper forts. Donc, j'en arrive aux collégiens qui parlent du changement de leur pratique langagière. Je vous ai dit que je débutais chaque entretien en leur posant la question de ce qui avait changé depuis qu'ils étaient entrés au collège. Alors, bon, il y en a qui disent que rien n'a changé, vous allez voir, on va voir plusieurs exemples. Je vous ai déjà dit que gros mots, insultes, langage familier revenaient très très souvent dans les descriptions qu'ils font des changements. Pour certains, ce qui change, c'est qu'ils ont acquis plus de vocabulaire, mais en acquérant plus de vocabulaire, ils acquièrent aussi un vocabulaire non standard et donc des gros mots, des insultes. On trouve pas mal de jugements esthétiques, de jugements axiologiques, moraux, hein, c'est bien, c'est mal, et pragmatiques. En gros, c'est adapté ou c'est inadapté. J'ai trouvé pas mal de modalisations, soit qui vont atténuer, par exemple, ça a un tout petit peu changé, où on utilise des petits gros mots. Donc c'était assez intéressant parce qu'il y a des petits gros mots et des gros mots, vous voyez comment. Et d'autres types de modalisations qui sont des intensifications, ça a énormément changé, ça a beaucoup changé, ça a totalement changé. Donc je vais essayer de rentrer un peu dans le détail de ces déclarations. Alors pour certains élèves, ça n'a pas changé ou très peu. Vous voyez ici... Adrien qui dit ça n'a pas changé. Je lui dis pourtant tu disais, il m'a dit juste avant qu'il disait wesh. Hein, je lui dis donc tu disais wesh avant ou tu le dis toujours pas? Bon, je le dis pas beaucoup, je l'ai dit une fois. Donc, vous voyez ici, on est vraiment aux prémices d'un changement s'il doit y avoir un changement. Deuxième exemple d'une élève de 6e, Dussou, qui nous dit ça n'a pas changé pour moi. Moi, il n'y a rien qu'à changer, j'étais toujours comme ça, et depuis, je m'appelle Lou, et depuis la primaire, ça n'a pas changé. J'apprends plus tard qu'en fait, ça n'a pas changé, pas parce qu'elle ne parle pas comme ses copines et copains adolescents, mais ce qu'elle veut dire par là, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que ça avait changé bien avant, en fait. C'est-à-dire que déjà au primaire, elle parlait comme ça. Donc, on peut s'interroger sur le sens qu'a cette déclaration vis-à-vis de moi, vis-à-vis du chercheur, mais vis-à-vis des autres adolescents ou préadolescents qui sont présentes dans l'entretien. Et elle avoue même que j'arrive pas à maîtriser, ça sort tout seul. Et donc elle a déjà une forme d'habituation très forte. Donc pour certains ça n'a pas changé, pour certains ça avait déjà changé. Un autre exemple ici, c'est Arthur. Donc, je reviendrai tout de suite après Arthur, mais vous voyez, il y a des termes un peu plus familiers qui arrivent, j'ai l'impression. Vous voyez ici un exemple typique de modalisation. Et je lui demande, est-ce que tu aurais des exemples? J'ai coupé un peu. Il dit, des fois, quand je tombe, je me fais mal, je dis « sa maman ». Je le soupçonne de dire « sa mère ». Vous voyez ici comment il va, entre guillemets, « édulcorer » dans une forme d'adaptation à son interlocuteur adulte. Voilà. Et il dit, c'est depuis que je suis en 6e. Il y a des trucs que je ne disais pas avant, que maintenant je vais dire. On reviendra après à son... Et là, maintenant, il explique pourquoi. Et je trouve ça très intéressant. Ça va reprendre pas mal des hypothèses que vous avez formulées tout à l'heure, hein, vous voyez. Il dit... le fait d'entendre tout le monde autour de moi le dire, qui me fait, et le fait de vouloir un peu m'incruster, venir me mettre parmi toutes ces personnes pour pas être l'exclu juste. Vous voyez ici, en fait, une forme de nécessité, presque d'obligation, pour s'inclure dans un groupe, pour appartenir à un groupe, pour retrouver une forme de sécurité au sein de ce groupe, et ne pas en être exclu. Bah, vous voyez l'heure qu'il se sent un petit peu obligé d'imiter. Et on va voir que ça l'amène après à une espèce de gymnastique discursive. J'y viens tout de suite après. Autre exemple, Joseph et Djibril ici. Donc vous voyez, alors je vous laisse observer aussi au niveau formel, ils emploient ce pronom impersonnel « ça » à la place de « on ». « Ça parlait », »,« ça apprend plus de mots ». Vous voyez, on apprend plus de mots. Mais du coup, on entend des mots aussi qui ne sont pas forcément bien à entendre. Vous voyez ici, c'est aussi très... c'est des périphrases hein, pour ne pas dire des gros mots, des insultes, etc. Et Djibril est plus direct puisque lui dit... t'arrives au collège, bam, c'est comme ça, c'est beaucoup plus violent, on va dire, le langage. Donc là, il y va moins par quatre chemins. Et parce que ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils co-construisent aussi, ils co-énoncent cette perception qu'ils ont du changement à l'adolescence. Je reviens à Arthur. Donc l'extrait est un peu long. J'ai mis en gras un peu les passages qui nous intéressent plus spécifiquement. Vous voyez, il dit, d'un côté, j'aime, ça ne me dérange pas, donc ma nouvelle façon de parler. D'un côté, je préférerais garder mon langage d'avant parce qu'il est plus joli. Donc, vous voyez ici, c'est une forme de rationalisation esthétique par rapport à quelque chose qui est plutôt d'ordre social, peut-être. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de termes familiers que je n'apprécie pas beaucoup. J'essaie justement de ne pas dire, mais qui viennent comme un réflexe dans mon langage. Donc, vous voyez qu'il y a... déjà, le fait que ça, c'est un peu envahissant d'une certaine manière. Et il va adopter un point de vue un peu différent juste après. Il dit, j'essaie de limiter le fait de parler comme ça, même si en fait, mes copains, ils sont en train de commencer à parler comme ça. Donc, j'essaie de un peu moins limiter pour rester bien avec eux dans le langage. Vous voyez, il imite, mais il limite sa limitation. Moi, je trouve ça très intéressant. Je force un peu moins pour essayer de l'arrêter. Vous voyez comment enfin, cette mise en mots, je trouve, est extrêmement intéressante. En gros, il se force à ne pas se forcer, quoi. C'est un peu ça. Et puis je lui demande, mais si tu n'avais pas du tout changé de langage, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il dit, je pourrais être un peu la personne exclue du groupe et enfin qu'on puisse me juger sur mon langage. Vous voyez ici l'importance que peut revêtir une forme de convergence langagière envers ce changement. Et puis, j'aime bien sa dernière phrase. Je trouve que mon ancien langage, il est plus joli, mais au collège, je parle collégien. Et ici, cette catégorisation du parler collégien. Alors, les ados disent aussi, enfin, ils disent aussi souvent, pas systématiquement, mais que, en fait, pour eux, l'adaptation stylistique, c'est-à-dire situationnelle, en gros, je m'adapte à mon interlocuteur, c'est relativement évident. Ça ne veut pas dire que dans les faits, ils y arrivent toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont pleinement intégré. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo ou assez paradoxal, c'est que ce qu'ils décrivent comme langage familier, c'est justement ce qu'on n'utilise pas dans la famille. Donc, je trouve ce terme, vous savez que langage familier, langage soutenu, langage courant, sont des termes qui ont été forgés dans les années 60 à des fins pédagogiques. Mais en réalité, c'est complètement inadapté à décrire la réalité des pratiques. Hein, parce qu'en fait, c'est des catégories étanches et que lorsqu'il s'agit de variations sociolinguistiques, les catégories étanches, ça ne marche pas du tout. Entre qu'est-ce qui est courant, qu'est-ce qui est familier, par exemple, c'est aussi le débat entre qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui est vulgaire. On sait que vulgaire, au départ, c'est le peuple. C'est ce qui renvoie au peuple, mais qu'au fil du temps, ça se charge d'une connotation beaucoup plus négative. Donc l'adaptation stylistique, c'est quelque chose qui pour eux est assez évident. Vous voyez, ici, c'est Ismaël qui dit « Sinon ça va, je parle bien d'une autre manière par contre à mes profs et à mes parents. Je lui dis que tu définirais ça comment? Je suis plus attentif, je n'ai pas un ton très haut, ça va, je parle plutôt bien. » Donc, il est assez satisfait de lui-même dans sa capacité à s'adapter. Une des questions qu'on s'était posée lorsqu'on avait réfléchi à cette présentation, c'était que disent les enfants ou les ados de la façon de percevoir leur langage qu'ont leurs parents ou les adultes. Donc, Donc les socialisation verticale ici, hein, c'est-à-dire comment des adultes, comment des éducateurs, qu'ils soient enseignants, AED, etc., peuvent percevoir ça, en tout cas comment les élèves perçoivent leur perception. Alors, premier exemple que j'ai trouvé très intéressant, c'est à nouveau trois jeunes filles de 6e qui disent que les surveillants sont un peu mous. Ils sont un peu mous, pourquoi ? Ben parce que en fait, ils laissent passer, ils n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont ils n'assument pas pleinement leur rôle de, on va dire, de gendarme normatif, d'une certaine manière. Et pour elles, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique parce que du coup, vous voyez, y en a qui disent des gros mots, puis il y en a qui réagissent, mais il y en a qui n'ont rien dit. On va revenir là-dessus. Deuxième exemple à propos d'AED. Ici, c'est Clyde qui dit, alors c'est à propos de Kwakubé. Et en fait, ce qu'il décrit là, c'est comment lui s'est senti exclu par ses camarades, parce qu'en fait, il n'avait pas le... Comme ils disent, ils n'avaient pas la ref, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas le truc. Donc ils disaient quoi ? Ils s'entendaient rétorquer Kwakubé. Ils disaient un, ils s'entendaient rétorquer un paillet. Et donc il dit, ben, j'en pouvais plus, quoi. Du coup, je suis allé voir un AED. Et vous voyez qu'ici, l'AED, il a. Alors je trouve ça intéressant d'interroger son rôle ici. Ben, il va rassurer ce petit qui est un peu perdu parmi ses pairs. Vous voyez qu'ici, quand même, c'est l'éducateur, en tout cas, qui transmet ou qui explique ou qui. Une forme qui est plutôt une forme adolescente. Voilà, je suis allé demander à un AED qui m'a dit que c'était un truc sur TikTok. Du coup, il l'a capté comme ça. Je reviens, je crois, à nos trois jeunes filles qui trouvaient certains AED un peu mous. Vous voyez, alors c'est un peu ambigu, parce que d'un côté, ça donne plus de liberté. Donc, 5 minutes, je vais essayer d'avancer très vite. Alors. Ça donne plus de liberté, mais après, des fois, on peut dépasser les bornes. Et je trouve. Ce qu'elles disent un peu plus bas, en fait, elles s'entraînent au collège, pour ne pas dire de gros mots, chez elles. Et en fait, c'est un peu le contraire de ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire que les parents, le rôle socialisateur des parents, c'est plutôt justement pour que leurs enfants, lorsqu'ils vont aller dans la société, soient adaptés à la société. Et en réalité, ici, ce qu'elles décrivent, c'est exactement l'inverse. Voilà, je passe un peu vite. Ici, c'est Missy. Donc ça, c'est Norma qui a réalisé cet entretien, c'est pas moi. Et Missy, elle dit, en fait, il y a des choses qui ont changé. Et puis moi, les frères, je dis tout le temps ça, enfin, je dis tout le temps frère, et je le dis même à mes parents. Je leur dis, frère, wesh. Donc ça étonne un peu les autres filles qui sont là. Ça étonne Norma aussi qui mène l'entretien, qui en rigole. Et mais ouais, ce que tu fous à son père. Donc, les autres sont un peu étonnés. Et, en fait, il y a une sorte de jubilation à dire, bah, en fait, en plus, c'est pas quelqu'un qui parle comme ça, c'est pas quelqu'un à qui on parle comme ça, donc elle le catégorise plutôt comme quelqu'un qui parlerait bien, je mets des guillemets. Et, normalement, il réagit comment quand tu lui dis ça ? Il dit, mais comment tu parles, toi ? Et après, il rigole, donc ça va, on a le même délire. Donc, vous voyez ici qu'elle fait tomber une sorte de barrière, mais... Encore une fois, c'est un discours, donc pourquoi elle tient ce discours ? C'est sans doute aussi pour décrire son père à ses camarades comme quelqu'un de cool, comme quelqu'un d'ouvert, etc. Mais ça nous dit peut-être quelque chose aussi de ce qui se passe dans les familles sur les frontières entre parler jeune, avec des guillemets, et parler plus standard. Autre élément, vous voyez qu'ici... c'est Combe qui dit que donc, la fonction ludique revient souvent, hein, on utilise des petits gros mots pour rigoler entre potes, sans faire exprès mais aussi en faisant exprès. Bon, des fois je dis ça devant un adulte, je gaffe, mais, alors là encore c'est un peu alambiqué, mais quand ma mère est énervée, pas forcément après moi, hein, peut-être à cause de son travail, et ben quand il y a quelque chose qui m'énerve aussi en même temps qu'elle, et ben là je peux dire un petit gros mot. Parce que, et je me dis, un petit gros mot, ce serait quoi ? Ben, ce serait, par exemple, fait chier. Deuxième exemple, ici, là, ce sont des filles de 3e, donc je l'ai mis en rouge, de classe plus, CST++. Et là, donc Pauline, elle dit, en gros, donc je vais très vite, mais quand je parle aux adultes, ben, forcément, je ne vais pas commencer à dire plein de gros mots, donc encore une fois, l'adaptation stylistique ou situationnelle. Mais vous voyez, je dis, ben, ils en disent quoi? Ben, ils n'aiment pas forcément, parce que je demande si eux utilisent des gros mots, et vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit, ben, tout ce qui est putain, merde, vraiment des trucs, les adultes aussi l'ont adopté, ben, ils les disent, mais moi, je n'ai pas le droit de les dire. Donc, vous voyez ici, ce que pointent certaines élèves, c'est ce décalage entre ce qu'exigent les parents et ce qu'ils font eux-mêmes. Vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer là-dessus et je vais en venir à ce point-là avant de presque conclure. Donc là, c'est Adja, vous voyez qu'elle parle de ses anciennes amies. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'essaie de leur parler, elles me disent « ta gueule ». Après, des fois, je leur dis « ta grand-mère ». Donc, vous voyez ici une insulte réactive, en tout cas un axiologique réactif. Et je leur dis « mais ça sert à quoi ?» Bah, à me défendre. Donc vous voyez ici la fonction d'affirmation de soi, et vous voyez pourquoi ça sert à se défendre, parce qu'en fait, si tu ne réagis pas, tu passes pour une tapette, en fait, c'est peureuse, ça n'a rien à voir, aucune connotation directe avec l'homosexualité, ça s'est complètement désémantisé, il y a un lien sémantique bien sûr, mais ici, il est un peu perdu. Et vous voyez la catégorie tapette de te battre, donc là, c'est peureuse par rapport à la bagarre. Je trouve intéressant que ce soit des filles qui parlent de ça et pas du tout des garçons. Voilà. Je suis désolé, ça va un peu vite. Quelques éléments de synthèse. Donc, questionner la place, le rôle de l'école, le double rôle en fait par rapport à tout ça, c'est une instance de socialisation verticale, c'est une instance de contrôle aussi de la production langagière, de transmission de la langue standard. Mais c'est aussi un lieu d'intense socialisation horizontale. Et ce lieu de socialisation horizontale, il met en contact des formes des élèves avec des formes non standards et transgressives. Et puis, bah, c'est aussi à la fois une instance de relative homogénéisation identitaire, puisque l'idée, c'est de faire des citoyens qu'on va intégrer, voire assimiler pour certains. Mais en fait, ça recrée des formes d'hétérogénéité. Et le collège dans lequel je mène l'enquête, avec ce phénomène de gentrification, va mettre en contact des populations vraiment très, très contrastées socialement, socio-économiquement, linguistiquement. Voilà. Et pour Déborah Meunier, l'école a une double fonction. Donc, elle le dit d'une autre manière en matière d'insultes. Elle est à la fois incitative parce que la cour de récréation, c'est un des lieux où les ados ou les enfants sont ensemble et c'est un lieu de liberté d'expression. Donc c'est là, c'est notamment là que ça va circuler. Et puis ce rôle coercitif aussi, puisque l'école a elle a pour fonction, en tout cas elle se donne pour fonction de limiter la propagation de ces pratiques langagières et met en place divers outils de contrôle social. Pour synthétiser, les fonctions des axiologiques négatives dans les relations entre pairs, on a vu que ça sert à être et à faire comme les autres pour ne pas se sentir exclu d'un groupe et y appartenir, s'y intégrer et être intégré par les autres, hein, c'est important. Souvent, il y a une fonction que j'appellerais ludique, c'est pour jouer, c'est pour rigoler, et jubilatoire parce qu'il y a un vrai plaisir à transgresser aussi. Et puis, on l'a vu juste avant, ça sert aussi potentiellement à se faire respecter, à entrer dans des conflits, dans des relations conflictuelles, sans les perdre, entre guillemets, d'entrée. Ça sert aussi à se présenter, ça sert aussi à la présentation de soi, notion de Eric Goffman. Et puis, je trouvais intéressant de vous parler de cet effet, ce que Ernotte et Rosier et plus tard Déborah Meunier ont appelé l'effet Cyrano, en fait. Cet effet Cyrano, ça décrit le fait que l'insulte est stratégique et qu'elle vise à se valoriser au regard non seulement de celui qu'on insulte, donc de prendre une position de supériorité, mais aussi à l'égard de l'auditoire, de l'audience. Et ça me semble un élément à prendre vraiment en considération. Pour vraiment conclure, je citerai Claudine Moïse qui dit que l'adolescence se construit dans le franchissement des limites et des interdits, entre délectation et expressivité. Un duo de psychologues qui disent que la même insulte et je mets des guillemets insultes ici, peut être prise au pied de la lettre et entraîner une réaction violente, ou sur le mode de la rigolade complice, donc ça renvoie à la notion d'insulte de solidarité, de sounding ou de vanne, hein, par exemple, entre pairs. Et puis, ça c'est de moi, moi j'aurais tendance à résumer tout ça comme « dis-moi qui tu insultes et comment tu l'insultes, avec quel terme ?» Et je te dirais qui tu es, ou qui tu veux, ou prétends être. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans cette dialectique de « je catégorise l'autre de manière négative », catégoriser l'autre, c'est toujours implicitement se catégoriser soi, comme différent de celui qu'on insulte, ou qu'on catégorise comme tel. Voilà, c'est la dernière. Donc, sont vraiment des questions plutôt que des réponses. En fait, l'adolescence met les ados ou les pré-ados devant une sorte d'injonction paradoxale. Ils doivent faire figure dans deux instances de socialisation différentes. Ils sont encore les enfants, les membres d'une famille à laquelle, en sixième, ils sont très attachés. La famille étant l'unité socialisatrice de base, le lieu d'acquisition de dispositions socialement construites, situées, mais avec, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais le rôle des frères ou sœurs aînés qui, pour certains, bah justement, font que ça change avant le collège. Deuxième terme de l'injonction paradoxale, c'est qu'en fait, il faut se situer, il faut se faire bonne figure aussi avec les pères. Et la gymnastique argumentative d'Arthur montrait bien ce dilemme entre les deux. Je me demande si ce n'est pas quelque part une autre actualisation de ce que Peter Woods, ethnographe de l'éducation, de l'école, appelle une stratégie sur le fil du rasoir. Hein, c'est-à-dire qu'il faut marcher sur une crête et ne pas tomber ni complètement d'un côté ni complètement de l'autre. Et je terminerai avec cette citation de Claudine Moïse, qui s'interroge et qui demande est-ce que l'irrespect ne serait pas alors une demande forte de respect, c'est-à-dire une demande de reconnaissance et de sécurisation, justement à un moment où l'estime de soi vacille, hein, le passage de la socialisation primaire, d'une certaine sécurité, vers la socialisation secondaire, la contestation de ce qui était bien établi, et une forme d'insécurité. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour vos questions.
Bonjour, merci déjà pour votre intervention, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais juste une question en revenant sur le changement par exposition. Donc vous avez parlé de la nécessité d'appartenir à un groupe. Je voulais savoir si vous étiez déjà posé la question, si c'était la même chose au lycée, parce qu'en fait, comme on passe du collège au lycée, on a aussi peut-être la nécessité d'appartenir à un groupe qui est différent de celui du collège. Et comme ce n'est pas le même âge, est-ce qu'on pourrait voir... Parce que là, on parlait de petits gros mots, etc. Est-ce que ça pourrait basculer dans les gros mots parce qu'on grandit? Ou est-ce que ça pourrait être plutôt le fait de se rapprocher de l'âge adulte? On essaye justement d'enlever tout le langage qu'on avait instauré au collège et de se rapprocher du langage des adultes.
Je me suis posé la question, je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, le lycée, en fait... À la fois, on devient plus grand, et donc, d'un côté, on s'autonomise plus de la socialisation primaire, donc de la socialisation parentale, éventuellement de la socialisation scolaire. Et c'est peut-être là que aussi vont se créer des différences plus grandes entre les groupes sociaux, entre les groupes d'élèves de différentes origines sociales et de différentes trajectoires sociales. C'est-à-dire, comment ils se projettent dans leur futur ? Est-ce qu'ils vont... poursuivre les études, se projeter dans des études supérieures plus ou moins prestigieuses, dans des études supérieures courtes, ou envisager de rentrer sur le marché du travail assez rapidement. Et avec quelle profession, dans quel type de profession ils se projettent, typiquement, pour certaines projections, il faudra, en tout cas, il y aura un discours explicite de la part des éducateurs, des profs, des formateurs sur le fait que, je ne sais pas si on va servir, faire même une formation courte, mais être en service dans des restaurants, par exemple, il va falloir faire attention à certaines choses, supprimer certaines formes. Au contraire, si on va travailler, je prends un autre exemple, dans le bâtiment, ça ne posera pas tellement de problèmes. Donc, je pense qu'il y a vraiment différence entre, un moment un peu clé entre les origines et la trajectoire ultérieure, quoi, je dirais, mais j'avoue que je n'ai pas travaillé avec des lycéens et que je travaille plutôt avec des collégiens.
Ben, merci. Oui, ici.
Bonjour. Est-ce que vous avez pu noter des différences entre le langage des garçons et des filles? Et peut-être aussi, est-ce que vous avez interrogé des groupes qui étaient mixtes? C'est-à-dire garçons-filles, je ne l'ai pas forcément vu dans votre présentation.
Alors, ça arrive... Enfin, pour interroger des groupes mixtes, ça arrive. Mais la ségrégation sexuelle étant ce qu'elle est encore en sixième, c'est en fait, vu que c'est des groupes affinitaires en général... C'est des élèves qui sont ensemble en permanence, qui acceptent de venir faire les entretiens ensemble. Enfin, souvent, c'est que des filles ou que des garçons. Cela dit, il y a quelques groupes mixtes. De mémoire, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai systématiquement analysé, il y a quand même une représentation des filles vers les garçons. C'est-à-dire que pour certaines filles, les garçons parleraient... Je mets des guillemets plus mal, plus grossièrement, etc. Mais en miroir, pour certains garçons, les filles ne parlent pas plus mal dans l'absolu, mais elles parlent plus mal pour des filles. Là encore, je mets plein de guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce qu'on pourrait attendre d'une fille, de la féminité, des représentations, enfin des stéréotypes de genre, en gros, les garçons portent un regard potentiellement négatif. Mais j'ai pas étudié ça systématiquement, donc je me limiterai à cet aspect. Par contre, ce qui est assez fort, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir dans les transcriptions, c'est en gros, il y a 6e, 5e et 4e, 3e, où là, il y a vraiment un écart qui revient souvent dans les discours sur qui nous influence. On est exposé à la manière de parler des 4e et des 3e. Donc, là, c'est plus une question d'âge, et ça correspond, me semble-t-il, aussi à... peut-être à des changements, à d'autres changements que des changements scolaires.
Si je peux me permettre, Cyril, à chaque fois dans vos transcriptions, on voit que vous interrogez, ou les jeunes vous parlent, à vous ou à votre étudiante. Je sais aussi que vous mettez des micro-cravates. Aux élèves pour qu'ils passent, alors qu'ils sont volontaires, hein, si mes souvenirs sont bons, ils passent une journée ou une demi-journée avec ce micro-cravate. Est-ce qu'il y a un changement, une différence entre ce qu'ils disent de leur vocabulaire, ce qu'ils vous disent, parce que vous avez quand même peut-être un regard pour eux un petit peu juge, et ce qu'ils utilisent vraiment aux pauses, dans les cours, dans les couloirs, etc.
Ouais, là non plus, je n'ai pas encore transcrit et analysé systématiquement tout ça, donc c'est que des impressions, des intuitions, des ressentis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de, ils ont quand même une forme de lucidité par rapport à ce qu'ils font, disent. Après, j'ai l'impression aussi que, en fonction des élèves, de leurs profils sociaux, mais aussi de leurs profils scolaires, les deux étant souvent liés, eh bien, il y a des potentiels décalages entre ce qu'ils vont déclarer et ce qui se passe, je sais pas, dans des moments d'énervement, d'émotions fortes, débordements émotionnels, ou ce qui a été dit comme quelque chose de rationnel et un peu dépassé. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment très intuitif et pointilliste.
En attendant, je me permets aussi une question. Vous avez parlé du fait de se différencier des enfants, et donc on le comprend très bien du côté de la part des sixièmes. Hein. Moi, j'ai travaillé aussi sur le passage chaîne de sixième, et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là, comment se différencier de ce qu'on était nous avant, hein, finalement, pour pouvoir changer d'âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé chez les plus grands, même si effectivement vous n'en avez pas beaucoup dans votre échantillon, ou est-ce que c'est vraiment propre à ce moment du passage, justement, d'un établissement à l'autre, d'un âge à l'autre?
J'ai l'impression, là, je me suis un peu plus intéressé à cette question, et notamment à travers le phénomène Kwakubé. En fait, très rapidement, alors que des élèves de 5e, 6e étaient encore, je dirais, à fond avec ça, à venir me dire « Hey, tu connais ça ?» Enfin, donc à le jouer, voire à le surjouer, à le surutiliser, les plus grands étaient déjà dans une forme de distance par rapport à ça. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, bon, ils ont leurs mots, hein, ils disent « ça fait flop, c'est gênant », c'est des choses qui reviennent extrêmement souvent, mais au bout de 2 mois, les petits avaient déjà récupéré ces catégories-là, c'est-à-dire qu'ils jouaient déjà le jugement. Et je vais, là, pour le coup, c'est une observation complètement partitante, mon fils qui est en terminale cette année, donc ça, c'était l'année dernière, enfin, début de l'année civile, début 2023, donc j'ai des élèves du collège qui viennent me parler de ça, et je lui dis, mais tu connais ça? Il dit, ouais, non, mais ça, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, quoi. Enfin, ça faisait 1 semaine, 2 semaines. Et voilà, il y a cette différenciation. Encore une fois, c'est dans le discours. Hein. Il continue de le faire avec sa petite sœur, par exemple. Mais dans le discours, en tout cas, il est important de, ouais, d'une certaine manière, de prendre les distances. Donc je l'observe encore chez un grand adolescent.
Des envies de prise de parole? Encore un petit peu de temps.
Si vous n'hésitez pas. En attendant que quelqu'un prenne la parole.
Si j'ai bien compris, à un moment, vous distinguez la compétence de... Vous dites les compétences de communication qui sont prises par la socialisation langagière. Et vous dites que ça s'oppose à la performance.
Alors non, c'est Chomsky, ça, c'est compétence linguistique versus performance linguistique.
Voilà. Mais en fait, je me disais, dans la vidéo des roses noires, à un moment, les gamines, elles passent de l'un à l'autre. Quoi. C'est-à-dire, quelles compétences il faut construire pour finalement être performant. Il y avait cette idée de... Elles articulent presque dans la même phrase, performance et compétence.
Alors, je vais... Ça renvoie un peu à de la théorie linguistique. Dans la théorie chomskienne de la distinction entre compétence, en gros, la compétence, c'est c'est purement grammatical et phonologique. Il n'y a aucune dimension sociale là-dedans. C'est en gros, on a des dispositifs neuronaux, cérébraux, qu'il appelle language acquisition device, donc une espèce de pré-câblage pour faire du langage. Donc, on fait du langage et ce que la linguistique doit étudier, c'est pas ce qui sort, c'est pas la performance, c'est ce qu'il y a dans le cerveau qu'on voit pas en quelque sorte. Donc là, voilà. Et Himes, qui lui est plutôt en anthropologie, parle de compétences de communication et non pas de compétences linguistiques, en disant si on avait besoin que de compétences linguistiques, ça serait, je veux dire, tous les travaux de l'anthropologie et de l'ethnologie montrent que ce qui est aussi important, c'est d'avoir des compétences sociales, culturelles, de savoir ce. Donc c'est pour ça que en fait, d'abord, Heinz a parlé de compétences linguistiques, puis il a modifié son concept vers compétences communicatives compétences. Ouais. S'il n'y a pas de questions, oui, s'il y en a une.
Moi, du coup, je voulais savoir, en fait, vous aviez évoqué qu'il y avait une différence entre, par exemple, les 6e, les 3e, mais vous aviez aussi évoqué la CSP. Est-ce qu'il y a une différence parmi les élèves qui sont issus de milieux un peu plus favorisés que des élèves qui sont issus plus de milieux populaires?
Alors, je pense que c'est très pertinent comme question. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié jusqu'à présent de manière systématique. Je peux juste m'appuyer sur la connaissance, on va dire, un peu ethnographique, hein, des groupes. Typiquement, le groupe des filles, Mimi, Luz, tout ça, avec qui j'ai passé plus de temps, qui est assez diversifié. J'ai l'impression quand même que le groupe de pères nivelle un tout petit peu ces différences. C'est-à-dire que le fait que leur groupe, il est Mimi, elle est plutôt de CSP+, pas bourgeoisie économique, mais plutôt petite bourgeoisie culturelle, on va dire. D'autres, typiquement, une des filles qui n'est pas dans l'échange là, mais qui fait vraiment partie du groupe, elle est arrivée d'Italie, elle est migrante récente, ses parents sont plutôt de classe populaire, etc. Et en fait, le fait d'être ensemble dans le groupe de pères, j'ai l'impression, nivelle un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un vrai partage culturel hein, sur ce qu'est le langage, comment on s'en sert et tout ça. Et notamment, elles nous ont donné une vidéo géniale où elles mettent en scène un procès d'un garçon qui s'est mal conduit avec une de leurs copines. Elles le filment, c'est quelque chose qu'elles ont posté sur les réseaux sociaux et qu'elles ont donné à Norma Coggins, là, qui l'a analysé dans son mémoire. Et on voit qu'il y a une réelle circulation des compétences, mais aussi des représentations et des manières de concevoir le langage. Après, ça n'empêche pas que quand on a des groupes qui sont socialement homogènes, et au collège, il y en a plein, hein, c'est-à-dire vraiment des enfants de milieu populaire qui restent avec des enfants de milieu populaire, et inversement, les petits groupes de troisième dont je vous ai montré un extrait, où là, on a vraiment quatre filles qui sont plutôt de CSP++, on a des réelles différences. Quoi. Aussi bien dans les compétences que dans le niveau d'avancement de la conscience métalinguistique. Ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas. Mais en tout cas, au départ, il y a bien des différences qui sont notamment liées à la socialisation familiale.
Je me permets peut-être une question. Cyril, quand vous intervenez dans les collèges, j'imagine que vous intervenez, enfin, vous avez des moments peut-être de discussion avec les adultes, professeurs, personnel administratif ou dirigeants du collège. Qu'est-ce qui les bouscule dans ce langage? Qu'est-ce qu'ils vous en disent?
Ben, j'avoue que j'en ai parlé, j'ai fait les entretiens que je n'ai pas encore transcrits avec les AED de l'année dernière, en fin d'année. J'ai trouvé qu'ils avaient une posture assez professionnelle, au sens où ça les bouscule pas trop. Ils l'abordent en disant on a un rôle à tenir, contrairement à ce que disent certaines ados en tout cas. On tient ce rôle sans le surjouer, c'est-à-dire que ils prennent beaucoup en considération le contexte. Dans quel contexte tel mot ou telle phrase ou telles insultes sont dites, et la manière dont c'est reçu par l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Donc ça, je trouve que c'est une manière assez professionnelle et dépassionnée en quelque sorte. Après, je pense qu'ils sont bousculés par... ce qui les bouscule, c'est peut-être des inégalités, le fait que il y ait certains élèves dans ce collège et qui ont du mal avec le langage standard, on va dire, ou qui partent, qui sont défavorisés et qui du coup ont du mal à acquérir les codes de tout le monde, les codes plus globaux. Quoi.
Oui. Pourquoi cet établissement-là a accepté votre présence? Est-ce qu'ils attendaient quelque chose quand vous avez présenté le projet? Parce que vous êtes en immersion quand même, donc c'est quelque chose qui peut être... il y a un certain regard sur ce qui se fait dans l'établissement. Donc un établissement qui accepte la présence du chercheur sur des choses qui peuvent être sensibles, je vais le dire comme ça. Comment ça s'est joué au début et est-ce qu'il y a de la part... des adultes,
des attentes,
il
faut remonter à loin parce qu'en fait j'ai déjà travaillé dans ce collège il y a 20 ans au moment de ma thèse en faisant des observations de classe, en travaillant avec j'y ai pas passé énormément de temps, mais j'avais déjà travaillé là-bas, puis j'ai travaillé avec des étudiants pour faire des enquêtes plus sur la diversité linguistique. Et notamment, on s'intéressait aux langues qui étaient présentes chez les élèves, mais aussi parmi les personnels, justement pour que certains personnels, y compris non enseignants, puisse servir de médiateur linguistique avec des élèves allophones arrivants, par exemple. Donc, tout ça a fait que lorsque j'ai présenté mon projet, en fait, il y avait déjà, bon, les équipes changent très souvent. Je connaissais déjà un peu le profil du quartier. Et puis, j'ai été aussi, au moment où j'ai fait ma demande, j'ai été introduit par. J'ai fait un terrain dans la maison des habitants, qui était le centre social dans lequel j'avais travaillé aussi 20 ans avant. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelle l'accès au terrain qui a été facilité par le fait que j'étais déjà dans les papiers de la maison des habitants. Ensuite, lorsque moi j'ai présenté mon projet d'observation, je l'ai vraiment axé, recherche fondamentale entre guillemets, c'est-à-dire pas du tout appliqué. J'ai juste dit en revanche que je proposais des formes de restitution, c'est-à-dire de restitution non seulement aux adultes du collège, enseignants, personnel, mais aussi aux parents d'élèves et aussi aux élèves. En fait, l'idée, c'était ça. Donc, j'ai proposé ce type de conférence, ou en tout cas conférence-débat. L'idée, c'était de pouvoir discuter de ce que j'observais. Et puis, ce qui se passe depuis, ça va faire 2 ans, en fait, que je suis, j'y suis un peu moins cette année, mais que j'y vais régulièrement. Et la direction a changé 2 fois. Et j'ai l'impression que cette année, on en parlait tout à l'heure, ils sont particulièrement sous l'eau. C'est-à-dire que confrontés à des problèmes. Et qu'en fait, je leur ai écrit 2 fois depuis la rentrée de septembre pour dire, bon, on avait prévu une intervention pour faire le point d'où j'en étais et tout ça. Donc l'année dernière, je leur ai envoyé un petit truc en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait tant d'entretiens, j'en suis là, j'ai... Voilà. Et là, cette année, j'ai eu aucune réponse. Donc je me dis, ça ne fait pas partie de leur priorité actuelle, j'imagine. Il y a un nouveau principal. La principale adjointe était arrêtée, je crois. Donc voilà, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est à l'image de beaucoup d'établissements, mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres préoccupations là aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça a été décisif, mais il y avait quand même cette idée que, et pour moi c'est important en tant que chercheur, que on n'est pas un chercheur qui vient prélever des trucs puis qui va les présenter seulement ailleurs. Pour moi, le fait d'être ici aujourd'hui, c'est aussi une forme de restitution à la communauté éducative, même si ce n'est pas strictement celle dans laquelle je travaille. Oui, juste, on parlait tout à l'heure de l'évolution et de la circulation des mots et du renouvellement rapide. Et on a travaillé avec Kosuke Inai, qui est un jeune collègue japonais qui a soutenu sa thèse, justement dans 3 collèges grenoblois, où là c'était une enquête par questionnaire, donc c'est une méthode complètement différente, et on a observé comment certains mots en fait se développaient d'abord plutôt chez les troisièmes, plutôt dans le collège de banlieue, avant de passer de descendre dans les niveaux dans le collège de banlieue, puis de passer dans les collèges de centre-ville, ou le collège dans lequel je bosse. Et puis, dans un collège périurbain. Donc, il y a à la fois cette diffusion dans les tranches d'âge, descendant, et cette diffusion vers, l'extérieur de la ville, en quelque sorte. Et à partir notamment de l'étude d'un terme, alors un terme qui est R, je ne sais pas si vous avez sans doute déjà lu ou entendu ça, il y a R pour dire il n'y a rien, un terme qui a sans doute été forgé par la communication électronique, eh bien, on voit bien ce mouvement. Et donc, on a proposé cette modélisation pour dire qu'il y a une innovation lexicale à un moment, que cette innovation lexicale, elle va permettre à certains locuteurs de se différencier d'autres. Hein, c'est la phase de diffusion restreinte, les premiers adopteurs. Donc, c'est les élèves de 3e dans un collège urbain populaire. Et puis, cette diffusion va s'élargir en quelque sorte, notamment à travers les réseaux sociaux numériques. Et si on prend l'exemple de Kwakubé, ça pourrait assez bien marcher. En fait, le TikToker qui a diffusé ça, peut-être que c'est lui qui l'a inventé, mais peut-être que c'était aussi un jeu qui existait déjà avec des copains à lui. Et moi, je ferais plutôt cette hypothèse que la création d'un génie tout seul. Donc, phase de diffusion élargie, de reprise, de popularisation, en quelque sorte. Et ça débouche sur une implantation, une généralisation, la normalisation, c'est-à-dire que ça devient un usage ordinaire, normal, et parfois une codification, c'est-à-dire que ça peut être repris par, alors pas forcément le Robert ou le Larousse tout de suite, mais il existe des dizaines de dictionnaires en ligne sur les manières de parler des jeunes. Et en fait, c'est une forme de codification déjà. Et en fait, cette codification, elle provoque ce qu'on pourrait considérer comme une érosion de l'innovation, et du coup, une perte du pouvoir différenciateur. Et en fait, à partir de là, bah, soit, une fois que ça s'est diffusé au plus petit et à tout le monde, ça n'a plus aucun intérêt en termes de différenciation. Donc on va soit adopter autre chose, soit revenir à un terme antérieur. Et en l'occurrence, à Grenoble, le terme antérieur, c'est « chi », qui veut dire « rien », qui est un terme qui connote fortement, on va dire, le milieu populaire et l'ancrage local. Quoi. C'est une sorte de valeur argotique refuge. Voilà, on peut s'en éloigner un peu, et puis quand le nouveau terme il s'est trop diffusé, on peut revenir à ce terme qui, d'une certaine manière, une valeur refuge. Ou alors, inventer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est juste une tentative de schématisation de ce cycle néologique.
Alors, comme on est parfaitement dans les temps, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve, on commence à 14h tout à l'heure avec, je crois, normalement un café avant la reprise.